J'ai réfuté totalement ce qui
va être.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. C'est jeudi 17 novembre 2011, nous parlons des enfants. C'est en marge de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, célébrée le 19 novembre de chaque année. Lancée en 2000 par la Fondation Sommet mondial des femmes, elle vise la mise en évidence des problèmes, des abus, ainsi que la nécessité d'intervenir de toute urgence par la diffusion de programmes de prévention. Selon la Fondation Sommet mondial des femmes, les abus et l'exploitation des enfants, notamment au niveau sexuel, constituent un problème universel et alarmant. Une attention accrue ainsi que des mesures efficaces et soutenues de prévention et de protection sont nécessaires, que ce soit au niveau familial, local, national ou international. Il interpelle les gouvernements et les organisations de la société civile à jouer un rôle actif dans la promotion et le respect des droits de l'enfant. Que proposez-vous pour prévenir les abus envers les enfants dans votre milieu? Nous recevons dans ce studio M. Joseph Godet-Kayembe, secrétaire permanent adjoint du Conseil national de l'enfant et président de la LISADEL, une ONG qui milite pour la promotion et la défense des droits des enfants. Joachim Nyanga, Clovis Ouboula, quant à la réalisation de cette émission mise en onde par Sylvain Matondo, Pierrot et la Mégie vous la présente et Nico Ndaka la supervise. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
C'est le rendez-vous signé de Radio Autopie. Des chemins détournés et des infos dépistées, la dépendance reliquée, chaque samedi, de 15h à 17h, sur Radio Autopie. Et si même abonné à la Lyon Auto, je vous y attends.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapitaine.
Voilà, c'est la deuxième quinzaine du mois. Vous pouvez nous appeler au 081-890-69-69, ou soit envoyer un message électronique à l'adresse pa@radiocapi.net si vous avez besoin d'intervenir. Monsieur Joseph Godet-Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Une fois de plus, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous dire aujourd'hui que les abus envers les enfants sont une préoccupation en RDC, vous qui travaillez sur terrain dans la défense des droits des enfants?
Oui, les abus envers les enfants, c'est une préoccupation parce que à cause des abus, l'État congolais a promulgué une loi sur la protection des enfants. Ça, c'est une préoccupation, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup d'abus qui sont faits aux enfants.
Et ces abus, si les auditeurs ont besoin de savoir, parce que peut-être quelqu'un peut faire quelque chose à la maison, il ne sait pas que c'est un abus envers un enfant, comment on peut fier les abus qui sont commis envers les enfants?
Il y a par exemple le mariage forcé. Il y a une fille qui n'accepte pas de se marier à quelqu'un. Le parent la force pour se marier, c'est un abus. Et l'État sanctionne ça. Il y a le délaissement de l'enfant. Un parent qui abandonne, comme souvent, qui abandonne les enfants sur la rue, qui abandonne la femme, ou bien papa, un parent, un père qui abandonne les enfants et qui va se réfugier chez une autre femme. Et si cet enfant porte plainte contre lui, il va être sanctionné, arrêté par l'État. Il y a l'autorité publique, par exemple la police, ou quelqu'un qui a vécu le cas d'un abus d'un enfant, cette personne qui ne dénonce pas, il est considéré comme complice, il peut être sanctionné par l'État. Il y a un enfant qui est en danger. Et le, vous le constatez, vous n'arrivez pas à réagir. Aussi, c'est un abus, parce que si l'État s'aperçoit que vous avez assisté au danger qui vise à l'enfant et que vous n'avez pas sécurisé l'enfant, vous pouvez être sanctionné. Il y a un parent qui refuse d'envoyer l'enfant à l'école, c'est un abus fait à l'enfant, et il peut être sanctionné au cas où l'enfant portait plainte contre lui, au niveau de la justice. Il y a les violences sexuelles faites aux enfants, il y a la pornographie qui est faite à l'enfant, et tout cela sont des abus à titre indicatif.
Voilà. Merci beaucoup vraiment de ces précisions. Ça va permettre aux auditeurs de savoir comment nous donner les témoignages, parce que aussi, la question c'est de savoir si effectivement dans leur milieu, là où se trouvent les auditeurs, ils vivent cela. Nous avons eu cette introduction qui nous a permis de comprendre l'importance de la prévention des abus, et aussi, vous les avez bien énumérés, les auditeurs ont suivi. Ils peuvent déjà intervenir comme Théodore qui est en Boujimaï, Laurent qui est à Béni, Mohamed qui est ici à Kinshasa. Vous avez la parole, messieurs, c'est soit nous donner les témoignages dans votre milieu de ces abus, comme indiqué par notre invité, mais aussi ce que vous proposez pour prévenir ces abus dans votre milieu. Théodore, vous êtes en ligne, Léon, vous êtes en ligne, et Mohamed, vous êtes ici à Kinshasa, on va revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Théodore, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi comment notre invité a pu expliquer d'une manière brève les différents types d'abus commis envers les enfants. Et je crois on peut retrouver un ou deux dans notre milieu, partout où nous vivons. Mais eu égard à ce que vous vivez sous place en Boujimaï, en ce qui concerne les abus envers les enfants, qu'est-ce que vous vous proposez pour prévenir cela, Théodore?
Merci bien. Avant de proposer quelque chose, vous savez, comme les abus contre les enfants ne viennent surtout qu'en dehors du foyer. Je trouve que l'on doit prendre la prévention des abus contre les enfants à partir de nos foyers. Dans la famille, qui est constituée du père et de la mère, ainsi que des enfants, il faudra un règlement d'ordre dans notre famille. Si le papa est au travail, c'est la maman qui reste à la maison avec les enfants. Et là, on pourra nous permettre à dire aux enfants et à instruire aux enfants ce qu'ils doivent faire. D'abord, les enfants doivent éviter tout ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais à leurs yeux. De toute manière, dans la maison, que ce soit chez les voisins, dans la parcelle, tout ce qui présente quelque chose de mauvais, ils doivent éviter. Une mauvaise compagnie, par exemple, les enfants doivent éviter. Suivre les mauvaises images à la télé, par exemple, les enfants doivent éviter. Il faut les former. Il faut chaque fois être auprès de pour dire que dès qu'il y a de mauvaises images, vous fermez la télé. Porter les habits de femme, par exemple. Une fille à partir d'une fillette de 8 ans, 9 ans déjà à la maison, quand vous commencez déjà à l'entraîner à porter des mini-jupes, des habits serrés, voilà, cet enfant doit grandir avec ce genre de choses. Il faut éviter, il faut les bazars, il faut déjà éviter à montrer cet enfant comment porter les habits. Respecter toute personne, que ce soit les voisins, les vieux, les adultes, nos amis, les enfants, on doit respecter tout le monde. Éviter tout ce qui est contraire au bien. Voilà, c'est ce que nous devons répéter à nos enfants chaque jour. Et je me souviens, à l'internat, on était à l'internat, on a suivi que le directeur de l'internat était un blanc, il aimait beaucoup les beignets là. Alors, il envoyait chaque fois, il donnait l'argent à un enfant pour acheter les beignets d'une maman qui était au coin. Voilà, que cet enfant avait l'habitude d'acheter les beignets chaque jour, il l'amenait au directeur blanc. Et le blanc mangeait les beignets sans problème. Hein? Il fut un jour, deux, trois, quatre jours que l'enfant, comme on l'envoyait chaque jour, les habitudes, les mauvaises habitudes lui sont venues, et puis il commençait à aller prendre le beignet, oh, le directeur m'envoyait. Il prend le beignet, oh, donc il a mangé le beignet comme ça, 5 jours durant. Ok, on ne l'avait pas envoyé. Alors, c'est ce que nous devons éviter. Il y a aussi ce que j'ai pas ajouté pour terminer, séparer les chambres dans nos maisons, par exemple. Il construit une belle maison, tout ça avec les enfants, il faut construire et puis séparer les chambres des enfants, des garçons, et puis des filles, pour éviter les incestes. C'est ça un peu ce qu'il a déjà présenté. Merci.
Merci beaucoup, Théodore. Vous êtes en Boujimaï et vous pensez que la grande responsabilité dans la prévention des abus doit être au niveau de la famille d'abord. Et il faut responsabiliser les parents, que ce soit l'éducation à donner aux enfants, les habitudes que les enfants doivent copier. Tout cela doit d'abord commencer en famille. Merci, Théodore. Nous sommes à Béni avec Léon. Bonjour, Léon.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour aussi à notre invité. Mmh. Je tiens à soutenir d'une part les propos du premier intervenant, mais à mon niveau, je pense qu'il faut d'abord définir la position qu'occupe l'enfant dans une société. Dans notre milieu africain et peut-être congolais, l'enfant occupe une place vraiment très précieuse. Donc, l'enfant a c'est un bien précieux, et comme c'est un bien précieux, cet enfant doit être vraiment protégé, puisque son niveau de vulnérabilité est vraiment très grand, et il a besoin de l'attention, du soutien, de l'assistance et de la protection de tout et tout point de vue. Alors, du point de vue physique, sanitaire, alimentaire, moral, culturel, donc l'enfant mérite tout cela. Alors, comment tout cela doit être protégé? Tout d'abord, à mon niveau, je pense qu'il faut d'abord assainir l'environnement. Dans quel environnement l'enfant vit? L'État a l'obligation d'assainir un environnement sain au bénéfice de l'enfant. Ici, en ville de Béni, d'ailleurs, à mon niveau, je pense que c'est seulement la prolifération des maisons de tolérance. Ce sont des enfants qui sont vraiment très, très encadrés là-bas par des mamans qui en tirent bénéfice. Alors, au vu et aussi à l'issue de l'État. Donc, l'État doit d'abord assainir les milieux, voir comment nous devons protéger les enfants contre les abus qui doivent être copiés par ces enfants-là. Nous, les adultes, nous commettons des abus, mais des abus qui doivent être commis dans des endroits-là cachés que les enfants ne doivent pas voir. À part ça, l'État aussi doit garantir l'éducation, comme l'article 53 l'a dit déjà. Une éducation gratuite à tous les enfants. Comme l'État n'arrive pas à garantir encore, nous devons mettre des pressions à l'État pour que l'enfant, puisqu'elle soit bien éduquée, sera capable d'identifier où elle est mal et comment se comporter dans une société. Un enfant sans éducation, et l'État, en troisième position, devrait aussi s'occuper des parents fonctionnaires qui ne reçoivent rien de l'État. Comment ces parents-là seront responsables vis-à-vis des enfants? Donc l'État doit d'abord répondre à ses obligations vis-à-vis des parents, et les parents seront aussi responsables devant leurs enfants. À part ça, je pense que c'est... On va peut-être améliorer les conditions de vie des enfants.
Merci, Léon Bébéni. Vous avez évoqué assez de choses hein, pour compléter Théodore de Mboujimaï. Mais vous pensez aussi qu'il est plus important, c'est aussi la garantie de l'éducation et la prise en charge des parents par l'État pour leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir aussi éduquer ses enfants comme il faut. Mais vous avez beaucoup insisté sur la place du choix qu'occupe l'enfant, il faut le protéger, il faut assainir son environnement. Et vous déplorez à Béni qu'il y ait beaucoup de prolifération, hein, la prolifération des maisons de tolérance qui font que beaucoup d'enfants sont abusés sexuellement. Merci beaucoup Léon de Béni. Appelez-nous au 081-899-6969 pour intervenir en direct et comme Mohamed qui est ici à Kinshasa. Bonjour Mohamed.
Ok, bonjour.
Vous avez suivi, les amis ont pu évoquer le problème du renforcement de l'éducation des enfants. Ils ont parlé aussi de la prise en charge des parents pour que les parents puissent avoir les moyens de pouvoir mieux éduquer leurs enfants. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici à Kinshasa pour prévenir les abus qui peuvent être commis envers les enfants, Mohamed?
À mon avis, le problème ne s'inscrit pas du tout du niveau toujours de la scolarisation. Le problème majeur ici à Kinshasa est ceci. La sous-traitance des enfants est due au manque, on manque souvent du travail des parents et aussi du côté de la société.
Voilà, là on a eu des petits soucis avec Mohamed de Kinshasa. Pour lui, il pensait que le problème, ce n'est pas seulement le problème de scolarisation, mais c'est plus ici à Kinshasa. Il pense que les parents n'ont pas assez de moyens de pouvoir encadrer leurs enfants comme il faut. C'est ainsi que les enfants sont exposés à tous ces problèmes qui conduisent aussi à tous ces abus. Merci beaucoup, Mohamed. Malheureusement, on vous a perdu. Nous allons à Kindou pour écouter Gilbert revenir dans ce studio et commenter ce point de vue avec notre invité. Gilbert, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Radio Café, à notre invité.
On vous écoute.
Oui, moi je voudrais dire deux choses. Les habits des parents vers les enfants et les habits aussi des enfants vers ses parents. Je commence d'abord par les habits des parents vers les enfants. Je constate ici que nous voyons certains parents qui se livrent par exemple à boire les vins, mais à la maison les enfants souffrent. Il y en a qui sont passés à l'école, mais les parents ne veulent pas le payer leurs frais de l'école. Il y en a de certains enfants qui pensent qui se mettent à d'autres choses pour le paiement des frais de l'école, même si les parents sont encore vivants, ils ne se préoccupent pas à l'air de voir des parents vers ces enfants. Mm-hmm. Il y en a aussi des enfants qui exploitent la cachérie, qui stressent de la cachérie pour avoir donc en fait l'argent de prendre d'autres choses, mais les parents ne font quelque chose qui n'est pas. Donc, les parents ne font aucune chose qui est importante à leurs enfants. Bon, je prends maintenant le second exemple des abus aussi des enfants vers ses parents. Par exemple, un enfant qui est à la maison, la maman commence à lui envoyer seulement, amène-moi les gobelets, mais l'enfant néglige. Balaye la parcelle, l'enfant ne veut pas. Cela aussi donc cela aussi n'est pas bon vers les parents. Et si nous les enfants, nous les faisons, mais il n'est pas assez bon. Voilà ce que j'avais comme mon exemple, ma lecture. Je vous remercie.
Merci Gilbert. Vous pensez qu'il y a à Kindou, la situation dans laquelle les enfants se trouvent, les papas qui s'adonnent à l'alcool et qui n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants, et les enfants aussi qui sont obligés de les travailler dans les carrières de l'exploitation artisanale de minerai. Mais vous avez aussi rappelé les devoirs des enfants envers leurs parents. Mais Patrick, comme vous êtes déjà là, on vous donne la parole. Patrick, vous êtes en Mandaka. Bonjour Patrick. Patrick, vous êtes à Lubumbashi, c'est ça?
Oui.
On vous écoute rapidement, Patrick.
Oui, merci à parole aux auditeurs et merci aussi à notre invité. Oui, ce que j'ai à dire est très simple. Il y a un problème dans notre pays. C'est le problème de l'exploitation. En même temps, les statistiques sont difficilement. Et on comprend que cela est une faiblesse. Parce que dans les familles, lorsqu'il y a des statistiques, lorsqu'il y a les assistants sociaux, c'est tout ça. Les assistants sociaux seront là pour suivre. Le problème dans les familles, il y a des familles. Moi, j'ai eu des familles où les bailleurs, quand le locataire, son locataire maltraite l'enfant. Mais il n'y a pas déjà une solution sociale pour pouvoir trouver une solution à cette situation-là. Un pauvre enfant de 3 ans qui est malmené par un camarade, mais il n'y a personne qui peut faire quelque chose.
Mm-hmm.
C'est un problème. Donc, on vient mettre les assistants sociaux partout dans le pays et mettre un budget conséquent pour les assistants sociaux-là, pour faire un suivi, il faut consulter les enfants et les mettre sous la garde des parents responsables. On doit le faire. C'est ce que j'avais.
Merci beaucoup. Patrick de Lubumbashi, vous plaignez d'abord du fait qu'il n'y ait pas assez de statistiques au pays pour savoir combien d'enfants sont victimes des abus. Mais dis-moi, vous pensez comme solution pour la prévention qu'il faudrait instaurer un système d'assistance sociaux, ceux qui doivent jouer aussi les rôles de sensibilisateurs dans le milieu pour savoir où sont les enfants qui sont victimes des abus et comment on peut trouver solution à ces problèmes. Merci beaucoup. Radjabou, vous allez garder la ligne parce que vous êtes à Kindou. On va revenir à vous le temps que nous puissions aussi écouter notre invité.
Élections 2011. Émission spéciale Parole aux auditeurs. Si j'étais président de la République. Si j'étais président de la République, c'est un espace offert à nos auditeurs pour présenter brièvement leur plan d'action. Si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires prendriez-vous dans le secteur de l'économie en RDC? Rendez-vous avec parole aux auditeurs si j'étais président de la République chaque mardi et vendredi des 11h à 12h, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Et le rendez-vous de demain, si j'étais président, va tourner autour de l'amélioration
du secteur de l'éducation à RDC. Si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires prendriez-vous pour améliorer le secteur de l'éducation? On prend rendez-vous demain vendredi. Vous allez vous prévenir la peau des présidents Chables et pouvoir formuler des propositions prioritaires pour vous. Revenons à vous, Monsieur Joseph Gouré Kayembe. Vous avez suivi les auditeurs. Partant de ce qui vient à travers le pays, où se trouve d'abord le niveau des responsabilités dans les abus envers les enfants?
Je pense qu'avant de répondre à cette question, je voudrais que je puisse bénéficier de votre invitation pour pouvoir participer à cette émission que vous avez retenue demain en rapport à cette invitation.
Voilà, elle est ouverte à tout le monde.
J'ai travaillé plusieurs années sur l'éducation et j'ai quand même des propositions concrètes.
Voilà, l'émission est ouverte à tout le monde. Ouais, merci.
Okay, merci. Je voudrais, par rapport à commencer par le dernier intervenant, qui parle de l'absence et
des assistants sociaux.
Notre loi sur la protection de l'enfant, dans sa disposition 74, prévoit les organes de protection de l'enfant. Il prévoit les consciences de l'enfant, il prévoit le corps des conseillers d'orientation scolaire, le corps d'assistants sociaux, la brigade spéciale de protection de l'enfant, le corps d'inspecteurs du travail, le corps des inspecteurs de l'enseignement, le comité national de lutte contre les pires formes de traitement des enfants, les organismes, institutions agréées, ainsi que le Parlement des enfants et les comités des enfants. Donc, le corps d'assistance sociaux, c'est l'un des organes prévus par la loi. Mais malheureusement, comme il est dit, le même Patrice Laplan, cette disposition, au niveau du ministère de la Justice, je crois qu'il y a des mécanismes qui doivent être mis en place pour pouvoir le rendre concret. Moi, je comprends que ça, c'est un fait qui appartient au ministère de la Justice. Et je suis en train de penser que, même si ça peut être rendu concret, il faut la mesure et le mécanisme de mise en œuvre.
De mise en œuvre, voilà.
Et ça pose encore un problème chez nous. C'est pas encore réalisé. Mais la loi prévoit déjà ça. Et parce que partout à travers le monde, les enfants ne peuvent pas être abandonnés. Les enfants sont suivis par les assistants sociaux au niveau des écoles. Donc, l'enfant, quand il va à l'école, quand l'assistant social connaît les enfants, il voit si l'enfant est mécontent, l'enfant pleure, il approche pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il doit se renseigner pour savoir si l'enfant est maltraité ou pas dans sa famille. Et on prévoit les maisons de garde, où au cas où les parents ne sont pas capables de prendre cet enfant ou le maltraitent, l'enfant est déplacé et mis ailleurs pour sa protection. Mais toutes ces choses, dans le temps colonial, ça existait dans ce pays. Mais malheureusement, dans notre pays actuellement, ça ne fait pas de la préoccupation des autorités, mais néanmoins, ça doit être repris dans la loi.
Dans la loi.
Et nous espérons que ça sera mis en œuvre par les autorités qui vont venir et qui seront beaucoup plus conscients. Il y a notre ami qui a parlé des enfants. De voir des parents à l'endroit des enfants. Et quand vous regardez l'article 198, il parle des responsabilités des parents par rapport à l'éducation. Qu'est-ce que l'article dit? L'article dit tout parent, tuteur ou responsable légal qui délibérément n'envoie pas son enfant à l'école et puni d'une amende de 50 000 francs congolais. Donc, le parent qui n'envoie pas l'enfant à l'école, si l'enfant va se plaindre au niveau de la justice, le parent doit être sanctionné. Mais il appartient aux enfants de pouvoir utiliser cette disposition pour prévaloir leurs droits. Ils doivent se présenter au niveau de la police pour que le parent soit interpellé afin qu'il puisse reprendre le chemin de l'école. Et ça, c'est commis.
Mais là, il y a un problème parce qu'il y a un auditeur qui a évoqué effectivement ce problème de garantir l'éducation à l'enfant. Mais là, il se pose un problème, c'est le moyen. Parce qu'en principe, beaucoup de pays qui ont rendu cette éducation obligatoire, surtout au niveau primaire, mais d'un côté, ils ont mis les mécanismes de la gratuité qui fonctionnent, qui permettent quand même aux parents qui n'ont pas de moyens de pouvoir envoyer son enfant à l'école.
Je reprends à sa question lorsqu'il dit qu'il y a des parents qui s'adonnent à voir, qui font d'autres activités,
voilà,
qui abandonnent les enfants. Par rapport à cette préoccupation, de la gratuité de l'enseignement fondamental, parce que nous avons fait les plaidoyers. La Lisabelle, je me mets dans la peau de la Lisabelle pour l'instant. La Lisabelle a fait des plaidoyers depuis 1996, demandant au gouvernement de mettre en œuvre la convention relative aux droits de l'enfant, qui prévoyait dans sa disposition 28 que l'enseignement devrait être gratuit ou obligatoire. Nous avons mené le plaidoyer pour que cette disposition soit prise dans la Constitution. Ça a été fait. Nous avons poussé le plaidoyer pour que cette disposition doit soit reprise dans la loi de protection de l'enfant. Ça a été fait. Mais nous constatons que sa mise en œuvre n'est pas faite. Or, notre pays, jusqu'en 1984, le pays, l'État congolais a accepté à l'éducation, je parle du régime de Mobutu, a accepté à l'éducation 30% du budget à l'éducation. Ce qui a fait que toutes les autorités que nous avons dans ce pays, toutes les infrastructures que nous avons dans ce pays, c'est grâce à cet argent qui est affecté à l'éducation. Et d'ailleurs, je vous informe que le Congo avait l'éducation la meilleure éducation. Et le Congo avait la meilleure éducation. Et nos enseignants, nos professeurs congolais étaient appréciés à travers le monde. Il y avait le professeur d'université bénéficiait des congés sabbatiques sur base de ces budgets-là. Il allait se réciter dans nos universités. 6 mois après, il revenait, il était réclamé sur le plan de santé mentale, il était bien positionné. Les étudiants congolais, les élèves congolais étaient très bien formés. Et d'ailleurs, je vous dis que tous les enfants qui allaient l'école, on a atteint 98% d'enfants à l'école. C'est à faire des enfants de la rue, ça n'existe pas. Donc, pour répondre en même temps à la question de notre partenaire, notre auditeur qui parle des enfants, de la prise en charge des enfants, et qui parle des statistiques, la situation des enfants s'est empirée en 1984 lorsque le gouvernement de 1984, le gouvernement Senghor, décide de mettre fin à la prise en charge de l'éducation sur demande de la Banque mondiale et du FMI, où le pourcentage qui était de 30% était ramené à 1%, que ce soit pour la santé et que ce soit pour l'éducation. Donc la débâcle que nous avons aujourd'hui en système éducatif, ça vient de 1984, lorsque le gouvernement Senghor décide de mettre fin à la prise en charge de l'éducation. Donc c'est ça qui nous a amené à cette situation-là que nous traversons aujourd'hui.
Voilà.
Donc il faut mettre l'histoire, et il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, il y avait une conscience qui a été prise par le régime de Mobutu, mais qui a été estompée par la communauté internationale lorsque la Banque mondiale, le FMI, entre en programme avec le Congo en 1984, et la situation s'est détériorée.
Voilà,
nous en sommes là. Mais néanmoins, la loi prévoit le mécanisme, la loi prévoit que les enfants congolais puissent accéder à l'éducation et de manière gratuite. Donc, je pense que lorsque nous aurons des responsables politiques qui sont censés et qui pouvoir prendre les choses en main, j'espère que cette disposition va être prise en charge, va être mise en œuvre, et vous allez constater qu'on ne va plus se plaindre comme on se plaint maintenant, et il n'y aura plus d'enfants dans la rue, parce que s'il y a beaucoup d'enfants dans la rue, c'est parce que la majorité d'enfants sont exclus du système éducatif. L'enfant va à l'école le matin pour étudier, on lui dit que tu n'as pas payé les meilleurs points, tu n'assistes pas au cours, l'enfant rentre à la maison, les parents disent qu'ils n'ont pas d'argent, l'enfant reste à la maison, il n'a rien à faire.
Et il est obligé d'aller se réfugier quelque part.
Si c'est une fille, il devient une prostituée pour vivre, si c'est un garçon, il quitte la maison. Donc c'est la situation de l'éducation qui est à la base. Donc je passe à cette situation pour répondre à la question de notre ami qui a parlé des prolétisme.
Oui, donc, le parmi des bénis, qui a des moments qui encadrent des gens aussi, avec les maisons de tolérance, tout ça, oui. Allez-y, rapidement, pour en parler, puis on va écouter encore le deuxième groupe de victoires.
C'est très important. Quand vous regardez la disposition 182 de la loi portant protection de l'enfant, la loi dit ceci, pour ce qui est il dit le prolétisme à l'égard de l'enfant et le fait d'obtenir, de fournir, de se procurer ou d'utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage.
Oui.
Donc, c'est lui qui fait ces genres de choses. Même notre ami qui est en train de se plaindre doit dénoncer ça à la police. Doit dénoncer, il est complice lui-même parce qu'il connaît, mais il ne dénonce pas. Il doit informer la police pour que la personne soit arrêtée et sanctionnée. Alors, s'il lui-même ne dénonce pas,
comment l'État va agir. Donc cette disposition de la loi doit être d'application et lui-même doit pouvoir suivre au niveau des Bukavu. Il a qui le Bukavu?
Il est à Beni.
Il est à Beni. À Beni, il y a beaucoup d'organisations de défense
des droits de l'enfant,
il y a des cliniques juridiques qui existent. Mm-hmm. Ils peuvent se référer à ces cliniques et ensemble, avec des avocats, ils peuvent mettre la main sur la personne et vous clôturez les dossiers.
Mm-hmm. Voilà.
Donc, je crois que c'est...
Oui, on a répondu vraiment, oui, et presque les préoccupations qui sont revenues le même. Nous avons Radiabou qui est à Kindu, Fidel et Emile sont à Karanga. Nous allons revenir à vous, messieurs, pour que vous puissiez aussi donner votre point de vue sur la prévention des abus qui peuvent être commis envers les enfants dans votre milieu.
Parole aux auditeurs.
Alors, Adabou, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, je suis en ligne. Bonjour, messieurs les journalistes.
Mmh. Nous parlons de la prévention des abus envers les enfants. Vous avez suivi comment ils ont été décrits par notre invité. Et vous, au niveau de Kindu, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait dans la société pour protéger les enfants contre toute forme d'abus?
Bon, d'abord, la première des responsabilités incombe aux parents parce que eux sont les premiers à éduquer l'enfant. Par exemple, dans les domaines sexuels, par exemple. Ce sont les parents qui doivent dire à leurs enfants d'éviter aux gens de toucher, par exemple, à leur sexe. C'est une autre façon de dire d'éviter les abus, par exemple, sexuels. Et une autre façon, pour un enfant qui veut, par exemple, qui commence à fréquenter l'école, c'est dire aux enseignants de protéger l'enfant maintenant qui est sous leur responsabilité. Ouais. Et puis, dans tout ça, c'est l'enfant lui-même, quand il est grand, qui doit commencer à lui-même, par ses propres mots, de dire non, par exemple, à quelqu'un qui veut lui solliciter, par exemple, pour le sexe. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Radjabou. Trois choses. D'abord, la responsabilité des parents, en ce qui concerne les abus sexuels, vous pensez qu'il faut d'abord plus sensibiliser les enfants à partir de la maison, mais quand ils vont aussi à l'école, parce qu'ils seront en dehors de la famille, que les enseignants puissent aussi prendre de la charge pour encadrer les enfants et surtout les protéger par rapport aux abus sexuels. Et aussi, au fur et à mesure que l'enfant évolue, il est acquis la conscience de pouvoir aussi prendre la responsabilité de la vie, savoir comment se conduire. Merci beaucoup, Radjabou de Kindu. Nous avons deux auditeurs en ligne de Karanga. Fidel, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, je suis en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Fidel.
Oui, à cause de l'abus qu'on est en train de parler, ici à Kana, on a constaté ceci.
Oui, Fidel, est-ce qu'il y a moyen de diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, et suivre les bichons à travers les téléphones portables? Ça peut être mieux comme ça. Allez, on y va.
Oui, je me suis éloigné là où il y a un récepteur. Maintenant, je suis là. Mm-hmm. J'ai parlé ceci. À cause de cela, les abus ici à Kananga, c'est fait par manque de moyens. Il y a plusieurs familles qui n'ont pas de moyens pour faire étudier leurs enfants. Et puis, il y a les enfants qui manquent pas faire avec les enfants. Et les enfants ne vont pas à l'école. On les cherche chaque jour. C'est pourquoi les enfants manquent pas faire écouter les préfectures comme il faut. Les garçons et les filles, c'est toujours comme ça à Kananga. C'est à cause de cela que les enfants ne savent pas bien progresser ici à Kananga.
Merci, Fidel. Vous pensez qu'il faut réintégrer les enfants dans les systèmes éducatifs, comme l'a dit notre invité. Beaucoup d'enfants se retrouvent dans ce champ parce qu'ils sont déçus du système éducatif. Merci. Ça, c'est le point de vue de Kananga, au Kasaï occidental. On reste à la même ville avec Emile. Bonjour, Emile.
Bonjour, Damien Capri.
Vous avez suivi notre ami de Kananga, avec vous êtes à Kananga à ce moment, qui pense qu'il faudrait remettre les enfants à l'école, donner un peu de moyens aux parents pour que ces enfants ne puissent pas se retrouver dans la rue et exposés à toutes sortes d'abus. On vous écoute, Emile.
Oui, moi, je voudrais juste contribuer avec ceci. La responsabilité est partagée, d'une part, entre les parents et l'État, et d'une autre, entre les ONG qui
participent.
Et
voilà.
Parce que, vous dites que vraiment, j'ai parcouru ce tout, il y a presque tout, il y a tous les mécanismes. Mais il y a un problème. La plupart des populations n'est pas informée sur. Donc, ils n'ont pas lutté sur la sensibilisation, la mobilisation des parents sur les droits sociaux.
directement.
Voilà, on est en train de perdre votre ligne petit à petit, Emile, malheureusement pour nous. Mais dis-moi, vous avez dit qu'en parcourant la loi, vous vous rendez compte qu'il a presque tout résolu, mais il se pose un problème. C'est la sensibilisation au niveau de la population pour que les gens puissent intégrer comme il faut, intérioriser, disons, la loi portant protection de l'enfant. Mais aussi, il se pose un problème de son application. Notre invité pourra nous dire, parce qu'ils sont sur le terrain, la loi est-elle suffisamment connue de la population et aussi appliquée au niveau des cours des tribunaux. On va en parler. Nous allons en Bandaka. Dieu, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à notre invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi, c'est Diemou Lumba, en Bandaka.
Comment prévenir les abus envers les enfants en Bandaka?
Oui, moi je pense que tout cela provient faute d'éducation de base. Si nous avions l'éducation de base, cela ne pouvait pas se produire.
Comment?
Monsieur le journaliste, imaginez-vous, ici dans notre ville de Mbandaka, ici, vous allez voir les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont au salle de cinéma jusqu'à 22 heures.
Bon.
Que disent les parents? Que disent les parents? Les parents ne disent rien. Bon, ils sont en train de marcher comme ça, ils n'ont pas d'éducation. Vous voyez un enfant qui est en train de gérer au lieu de ses mères, de ses parents. Donc, on ne comprend pas. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas d'abord, donner la charge à l'État. Parce que si vous dites non, c'est l'État qui fait comme ça parce que les parents ne sont pas payés, là, ils ne payent pas s'il faut surveiller leurs enfants. Non, c'est pas. Comment un parent peut autoriser à son enfant de gérer parce qu'il n'a pas d'argent? Moi, là, je ne vois pas vraiment la faute de l'État. Moi, je vois la faute, c'est dans l'éducation de base. Il fallait qu'il y ait d'abord l'éducation de base au niveau de la maison. Les parents interdisent d'aller aux enfants. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas injurier. Il ne faut pas sortir. Imaginez aussi des filles qui portent des habits sales devant les parents. Ils sortent avec une mini-jupe comme ça, avec un pantalon trop serré. Bon. Les parents ne disent rien parce que c'est mal, il n'y a pas d'argent. Non. Non, je pense que les parents devraient d'abord éduquer leurs enfants. Bébé, il faudrait qu'il y ait un objet qui permet de surveiller les enfants. Il n'y a pas de danger ici à Mandaka. Les dangers sont en train de se mettre marché comme ça, vous voyez les enfants. Non, il n'y a pas vraiment la surveillance du côté là des dangers. Donc, c'est pourquoi je voulais juste intervenir en disant qu'il y a l'éducation d'abord de base à la maison, et puis il faut qu'il y ait les gens qui ont des enfants qui puissent surveiller les enfants.
Merci beaucoup, Dieu des Mandaka. Vous pensez que la première responsabilité revient d'abord aux parents dans l'encadrement des enfants et dans l'éducation. Mais en Mandaka, vous êtes désolé qu'il n'y ait pas des structures qui s'occupent de la défense des droits de l'enfant. Vous pensez qu'il faudrait en avoir, qui peut faire le travail aussi de monitoring, de sensibilisation et aussi de protection. Merci beaucoup. Nous rentrons à Kalanga, où apparemment beaucoup d'auditeurs nous suivent à Kalanga. Mais vous aussi, vous êtes ailleurs, vous êtes à Kikwit, vous êtes à Matadi, vous êtes à Bandundouville, vous êtes à Ariwara, Aru, voire même Butembo, Bukavu et Uvira. Appelez-nous au 081-890-69-69 pour intervenir comme majeur. Vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour M. Pierre-Louis Lamouji, bonjour à l'invité et à tous les invités de Radio Capitale.
Vous êtes à Kalanga au Kassai occidental. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur la responsabilité des parents dans la lutte contre les abus. Mais vous aussi, qu'est-ce que vous ajoutez au-delà de la responsabilité des parents pour protéger effectivement les enfants contre les abus?
Évidemment, je vais me compléter à dire ceci. Je crois que beaucoup d'éditeurs là qui m'ont précédé ont beaucoup insisté, mais moi je reviens encore à ceux qui ont déjà dit en ajoutant quelque chose. Je voulais dire ceci. Premièrement, les parents doivent prendre leur responsabilité. Ils sont le premier éducateur de leurs enfants. Avant d'intégrer ou ça d'impliquer un enfant dans la société, avant de prendre trop fort dans la société, les parents doivent prendre leur charge d'éduquer fondamentalement leurs enfants. Deuxièmement, je voulais attirer aussi la faute grandement à notre cas. Tout ce qui concerne les abus destinés aux enfants, à mon niveau, je constate évidemment Il est très congolé lié à la hauteur de plusieurs situations défavorables et malsaines, comme beaucoup de ménages, bien entendu, sur toute l'étendue du pays. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le secteur de l'éducation n'est pas fondamentalement pris en charge par eux, car les parents se retrouvent à l'incapacité de payer continuellement sans avaler leur couleur le frais scolaire de leurs enfants. À ce niveau, je voulais simplement dire que l'éducation au niveau scolaire façonne et dresse l'enfant de manière à se taire, il mange et se conduit comme un bon citoyen dans la société.
Mm-hmm.
Voilà ce que j'avais à contribuer. L'État et les parents doivent prendre les charges comme étant les principaux éducateurs des enfants. Parce que notre pays est vraiment un pays de
Merci beaucoup, Marc de Kananga, la responsabilité des parents dans l'éducation, mais aussi l'État qui doit faciliter à ses enfants d'avoir accès à l'éducation pour éviter qu'ils se retrouvent dans la rue ou exposés. Merci beaucoup, c'est Marc de Kananga. Nous avons Jean-Claude qui est à Lubumbashi. Bonjour, Jean-Claude.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, les invités de la radio Capi, et je salue tous les auditeurs.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les enfants de Lubumbashi contre les abus qui peuvent être commis sur eux?
Oui, d'abord, la première des responsabilités incombe à l'État. L'État ne sait plus gérer les médias. Il faut donner un exemple. Dans la plupart des temps, les enfants retournent toujours à des chaînes où on peut faire passer des séries d'amour, où les gens sont en train de se coucher sur les lits en présence des enfants, alors que certaines séries se passaient vers 23h, le moment censé où les enfants devraient déjà dormir. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, la crise économique, c'est une contrainte irrésistible. Donc, si les parents ne savent pas payer les frais scolaires pour leurs enfants, et que quand les enfants vont à l'école, ils sont renvoyés quelques temps plus tard. Mais les enfants, ils prennent tout ça là, l'éducation de la route, ils sont en train de croiser les masques. On ne peut plus gérer l'accoutrement des enfants pendant ces derniers temps. On sait leur laisser l'opportunité de choisir n'importe quel vêtement comme nous sommes à la mode aujourd'hui de la mondialisation. Vous savez que cette mondialisation-là, il faut de l'éducation d'ailleurs pour qu'on accède à la mondialisation. Et de trois, les parents quelque part, ils sont irresponsables. Dès lors qu'ils n'ont pas à manger, ils savent facilement laisser leurs enfants les ramener de petits colis et ils ne savent pas savoir d'où vient ce colis-là. Je pense que les responsabilités sont partagées et que le grand responsable dans la mauvaise éducation des enfants, c'est l'État. L'État doit d'abord recourir à ses anciennes méthodes pour protéger d'abord les enfants et les parents. Et cette fois-là, la responsabilité redeviendra aux parents.
Merci. Merci, Jean-Claude. Responsabilité des médias aussi. Ça, c'est qui est diffusé à l'endroit des enfants quand ils sont devant les écrans des télévisions. Vous parlez aussi de la responsabilité des parents, mais aussi l'État qui doit revenir à ses anciennes méthodes qui lui permettaient de mieux travailler pour protéger l'enfant. Nous allons terminer avec Raphaël qui est à Chicapa. Bonjour Raphaël.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, bonjour aussi à l'invité.
Comment prévenir les abus qui peuvent être commis envers les enfants de Chicapa? Qu'est-ce qu'il faut faire, Raphaël?
Bon, en tout cas, Pierrot, je voudrais un peu parler, surtout ici à Chicapa, je voudrais un peu parler à cette côté des périphéries de Chicapa. Ici, sur place à Chicapa, je pense peut-être que 600% des parents, ils ont quand même compris ce qui se passe dans la vie, ils envoient les enfants à l'école. Mais chose grave, nous regrettons du fait que dans les périphéries de Chicapa, dans les contrées environnantes, il n'y a pas des écoles. Récemment, on avait parlé, je ne sais pas, de la construction, celui-ci, c'est des 2007 écoles comme ça. Mais malheureusement, dans les contrées les environnantes de Chicapa, il n'y a eu aucune école construite. C'est ce que je dis, tous les enfants qui vivent dans toutes ces contrées-là sont privés de l'éducation scolaire. C'est ce qui fait aussi que ces enfants-là sont aussi victimes de d'abus.
Oui. Merci Raphaël. Les enfants qui n'ont pas accès à l'école dans la périphérie de Chicapa, et comme Chicapa c'est une zone où il y a une activité minière très poussée, beaucoup d'enfants vont se retrouver en train de travailler dans les mines, que ce soit filles ou garçons. Merci beaucoup. Nous revenons à vous directement, monsieur Joseph Godet KMB. Non, mais prenons d'abord Jean-Robert. Jean-Robert, vous êtes en ligne. Bonjour.
bonjour.
Vous êtes à Bougna, en province orientale. On vous écoute, hein. Avant de donner la parole à notre invité, qu'est-ce que vous proposez pour la prévention des abus qui peuvent être commis envers les enfants?
Ok. Ce que je vais vous dire ici à Bougna est qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Je sais qu'à Bougna, nous sommes dans une zone post-conflit. Mais je crois que dans l'enseignement secondaire, imaginez-vous, ma fille ou mon fils, de 13 ans et 14 ans, doit être dans une même salle avec une maman ou avec un taximètre de moto, à 5 ans, 5 ans, et en troisième, elle ou en quatrième année des humanités secondaires. Donc ma fille de 13 ans, qui a comme collègue une maman de 25 ans. Mon petit garçon de 13 ans avec comme collègue un papa ou pas de 20 ans, 25 ans, qui a déjà la vie. Et vous comprenez quelle ambiance il y a, comment nos enfants ici perdent déjà leur enfance à l'enfant au bas âge. Ça, c'est un premier point. Deuxième préoccupation, c'est à propos des stages qu'on accorde aux finalistes ou aux pré-finalistes qui sont en situation de manière d'humanité. Une fille de 5 manières d'humanité qui est en situation de on la met ici, souvent, à la DGI ou bien dans nos ministères ici, et voilà, tu quoi. Ils vont faire les stages scolaires ou ils vont faire les stages de mariage. Moi, je dis, il est peut-être souhaitable que les parents font comme on le faisait chez moi, bien sûr, ailleurs là-bas. Pendant les vacances, on organise les stages dans les instituts scolaires ou à l'école, ou à l'institut, on invite des spécialistes pour aller animer ces gens de stage là-bas. Et on met les enfants à l'abri de toute ambiance, vous comprenez, les vieux papas qui sont à l'hôpital ou à la DG avec leur argent, et l'autre, il va être une fille de 15 ans, c'est à 17 ans. Et donc, les jeunes enfants commencent la vie trop mal, très tôt, et c'est déplorable.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Robert de Bougna. Les différences d'âge dans les salles de classe et à Bougna qui font que les enfants sont exposés à des abus, hein, qui peuvent aussi copier eux-mêmes. Et vous vous plaignez beaucoup plus pour les jeunes filles, les 5e, 6e, ceux qui sont encore mineurs, qui vont faire les stages dans les entreprises. Vous pensez qu'elles sont beaucoup plus exposées aux abus sexuels. Il serait mieux que les stages puissent être surveillés. Cela peut permettre à ce que les enfants soient protégés.
C'est parce que Radio Capuil et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapuil.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, monsieur Joseph Boudé-Karimbe, vous avez suivi les auditeurs parce qu'on revient sur ce problème de la loi. Est-ce que la loi portant protection de l'enfant est-elle suffisamment connue à travers le pays, dans les familles, dans les écoles et aussi suffisamment appliquée dans les cours des tribunaux? Parce que tout tourne autour de la sensibilisation, l'application autour de cette loi. Et vous allez parler pendant 4 minutes et demie, le temps qu'on écoute les derniers auditeurs, puis on va revenir pour conclure.
Avant de répondre à cette question, je voudrais donner raison à notre ami de Lubumbashi lorsqu'il est responsable de l'État. L'enfant appartient pas aux parents, l'enfant appartient à l'État. Parce que toutes les dispositions qui sont prises pour la protection de l'enfant, c'est parce que cet enfant, lorsqu'il va terminer les études, lorsqu'il va grandir dans de bonnes conditions, l'enfant va s'occuper de l'État et non pas des parents. Donc ça, les gens doivent savoir que tout ce que les parents font, c'est aider l'État à pouvoir élever quelqu'un qui va les servir plus tard. Donc, la loi prévoit que le parent a la responsabilité d'élever l'enfant avec l'aide de l'État. Ils ont la responsabilité d'élever l'enfant avec l'aide de l'État. Donc l'État ne joue pas son rôle, correctement. Il ne joue pas son rôle, raison pour laquelle nous sommes en train de connaître ce que nous connaissons. Nulle part au monde, on trouve un État qui fonctionne comme l'État congolais, qui oublie le social et qui se préoccupe de sa vie propre. Parce qu'en principe, l'État doit prendre la responsabilité de pouvoir garantir la sécurité, la bonne éducation aux enfants, la bonne éducation aux enfants à lire, donner la possibilité aux parents de pouvoir élever les enfants à sa place. Donc, les parents qui sont pauvres, impayés, comment ces parents va-t-il assurer l'éducation des enfants? Va-t-il assurer la protection des enfants? C'est exclu. Donc, depuis l'époque où on a mis fin au paiement des salaires des enseignants, à la meilleure condition des salaires des enseignants, l'État a cessé de pouvoir protéger les enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut que notre pays, nous ayons des responsables politiques qui sont préoccupés par la problématique de l'enfant. Parce que si les enfants ne sont pas protégés, l'avenir n'est pas certain.
Voilà.
Bon, deuxièmement, je viens à notre ami qui me parle, qui pose la question en termes des enfants qui vont au stage. L'enfant de 17 ans, de 15 ans, se retrouve dans un stage. Un enfant en 5e primaire, secondaire, qu'est-ce qu'il doit faire dans une entreprise? Ça, c'est quelque chose de grave. Et ce n'est pas normal, parce qu'il est dans les cycles de formation, on l'envoie dans une entreprise pour faire quoi. Et de même aussi, l'enfant, qui doit être dans une même classe, un enfant de 13 ans d'ailleurs. La loi congolaise, la loi sur l'éducation prévoit que l'enfant ne peut pas, donc, on ne peut pas inscrire quelqu'un à l'école secondaire normale, au-delà de quelqu'un qui a plus de 18 ans. Donc, on a tout calculé. Pour être en primaire, on a prévu l'âge. Pour être en secondaire, on a prévu l'âge. On ne peut pas être ensemble, un enfant de 13 ans, avec un papa de 40 ans. Enfin,
voilà. Vous pouvez permettre de répondre à ma question, peut-être dans la conclusion, parce que là, on a que 3 minutes et nous avons 2 auditeurs. Malheureusement, on va revenir à vous pour conclure en répondant à la question sur la loi. La sensibilisation
La sensibilisation n'a pas été faite. Vous avez raison. Parce que lorsque nous faisons la sensibilisation dans les cours des tribunaux, on constate que c'est même des magistrats qui n'ont pas cette loi. La loi sur la protection de l'enfant.
Voilà.
Et l'appareil n'a pas été fait. La mise en application posera le problème tant que la population ne connaît pas cette loi.
Voilà. Amici Martin, excusez-nous d'avoir mis plus que 30 secondes pour pouvoir commenter ce sujet. En commençant avec vous, Amici, vous êtes à Kindu, bonjour. Amici, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, Amis, sur le gouvernement, oui. Il y a pas de problème.
Je
n'ai
pas de problème. Clair dans son speech. Mais ce que je veux soulever ici, les lois congolaises restent dans les tiroirs. Pourquoi je dis dans les tiroirs? Parce que ces lois-là ne sont pas vulgarisées. Vous allez voir, moi, ici, à Kine, nous n'avons jamais vu une organisation nationale ou internationale qui éduque la masse concernant ces lois-là qui parlent de la protection de l'enfant contre ces abus-là.
Merci beaucoup, Amici. Merci beaucoup, Amici. Désolé qu'on vous a resté la parole. Je pense qu'on attend beaucoup de temps. Vous déplorez le fait que personne n'est descendu à Kindu pour sensibiliser la population autour de la loi sur la protection de l'enfant. Nous terminons avec vous, Martin. Vous êtes à Tananga. Bonjour. Martin, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez aussi 30 secondes, Martin, pour donner votre point de vue rapidement.
Ah bon, moi je comprends que parce qu'on a parlé de l'autorité des parents et de la responsabilité de l'État. On sait l'autorité des parents et la responsabilité de l'État fait défaut. En ce moment, il faut donc que redonner à l'enfant la confiance. Puisque je n'ai pas dit si les parents ont échoué. Si l'État n'a pas fait ce qu'il a, il devrait en partie faire. L'enfant doit se le conduire au faire ce qu'il veut. Admettons une fille qui va se prostituer parce que ses parents ne sont pas en mesure de la prendre en charge. Alors je suggérerais qu'il y ait des organisations, des institutions sociales qui peuvent mener des campagnes de sensibilisation pour ramener les enfants, voire même la conscience.
Merci,
si l'État a échoué et la famille a échoué, que les enfants aient même la conscience pour bien se conduire et éviter des abus.
Merci beaucoup, Martin. Nous revenons à vous, monsieur Joseph. Désolé qu'on ne saura pas aller plus loin parce que là, il n'y a qu'une minute qui nous sépare de la fin de l'émission. En deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de ces abus et comment on peut parvenir à les prévenir? En deux mots, vraiment, pour terminer cette émission.
En deux mots, je tiens à ce que la loi soit vulgarisée et que la loi soit mise à la disposition de toutes les familles. Chaque famille, une loi. Et ça aura permis à ce que les droits de l'enfant s'arrêtent.
Voilà.
De même, que l'État congolais, lorsqu'ils prennent la responsabilité de pouvoir s'occuper de l'enfant. Ils invitent à faire plus attention à toi.
Merci beaucoup, M. Joseph Boudé-Kayembe. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire permanent adjoint du Conseil national de l'enfant et président de la LISADEL, une ONG de défense des droits de l'enfant. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Vous savez, il sera consacré à l'émission spéciale « Si j'étais président de la République, vous allez définir vos priorités pour améliorer le secteur de l'éducation si jamais vous étiez à la place du chef d'État. » Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission, Jocelyne Nyanga, Clovis Luboula, mais aussi, excusez-moi tout, qui l'a mise en onde, Nicole Ngakala, supervisée. Ben, tout à l'heure, vous allez suivre l'actualité en compagnie de Radio Capture. Au revoir.